Diffusion aujourd'hui de l'entretien que j'ai réalisé il y a quelques semaines avec Claire Brière-Blanchet à propos de son livre « Voyage au bout de la Révolution, de Pékin à Sochaux » aux éditions Fayard. Alors à l'heure où la Chine vient de fêter avec faste les 60 ans de la fondation de la République populaire de Chine par Mao et que Hu Jintao a déclaré « Aujourd'hui, une Chine socialiste face à la modernisation, au monde et à l'avenir se tient fermement debout à l'Est », les maoïstes français se souviennent de leur jeunesse militante. Gauchiste puis maoïste, Claire Brière-Blanchet entre en extrême gauche en 1960 avec la guerre d'Algérie et passe 15 ans au service exclusif de ce qu'elle croit être la Révolution, avec son mari Pierre Blanchet qui sera tué en reportage en Croatie en 1991. En 1975, elle devient reporter à Libération et publie des ouvrages sur l'Iran, le Liban, l'Égypte et l'Irak. De 1988 à 2007, elle est en charge des publications de Médecins du Monde et crée la revue Ingérence. Retour sur le maoïsme qui influença pendant de nombreuses années la gauche intellectuelle française. On écoute Claire Brière-Blanchet. Claire Brière-Blanchet, bonjour.
Bonjour.
Comment et pourquoi êtes-vous entrée en maoïsme ?
Alors, pourquoi je suis entrée en maoïsme ? Je pense qu'il faut remonter un petit peu en arrière, c'est-à-dire que ma génération, nous étions nés, on va dire, entre 1940 et 1950. Et c'est une génération qui a vécu l'immédiate après-guerre, donc les retombées de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est violemment interrogée sur les raisons de l'extermination des Juifs d'Europe, de la Shoah, qui a été hanté par cette question et qui s'est demandé ce qu'avait fait la génération de leurs aînés, leurs parents, leurs proches, etc., mais qui étaient leurs aînés d'une génération pour que la France en arrive à mettre sur pied le régime de Vichy, collaborer avec l'occupant nazi. Qu'est-ce qui avait produit une pareille catastrophe, qui était cette catastrophe de l'antisémitisme allant jusqu'à envoyer des enfants dans les chambres à gaz. Ça, c'est la première question. Donc, nous étions une génération qui s'est rapidement politisée. Le deuxième événement a été qui nous a fait entrer en politique, c'était la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que nous étions lycéens et nous pouvions voir dans Paris des cortèges de gardes mobiles, de CRS embarqués, des immigrés d'origine algérienne. Et Paris était une ville à l'époque extrêmement violente. Je suppose qu'en province, il y a eu le même genre de situation, mais à Paris, il y avait à la fois le FLN, il y avait les forces du pouvoir 4e République et de Gaulle, il y avait l'OS, il y avait des attentats, il y avait des manifestations très très violemment réprimées. Et je peux vous dire que quand on manifestait pendant la guerre d'Algérie, on y allait la peur au ventre. Parce que si on se faisait littéralement poursuivre, matraquer violemment, et dans les commissariats, on nous passait à tabac avec... Les manifestations d'aujourd'hui, où on se balade avec des... Pour moi, c'est quelque chose de totalement nouveau. Enfin, c'était inconnu. Et donc, notre entrée dans la politique française et internationale s'est faite à travers les forces politiques aussi du pays. Or, qui avait le voix au chapitre à l'époque ? Il y avait d'une part toute une partie du gaullisme issue de la résistance... Il y avait un PCF, un Parti communiste français, extraordinairement puissant, un tas de journaux, de revues, d'intellectuels qui avaient promené, en tout cas depuis la libération, un changement de régime en France. Et ce PCF, qui était extraordinairement puissant, d'abord avait un peu confisqué l'histoire de la résistance, c'est-à-dire qu'il était le parti des 100 000 fusillés, on sait maintenant que c'est faux, avait fait l'impasse sur le pacte germano-soviétique, ce qui est quand même une chose énorme du point de vue de l'histoire. Mais surtout, il y avait une ambiance je veux dire, du fait de la guerre qui était violente, il y avait une ambiance aussi de racisme anti-arabe, qui pour nous, les jeunes, a été un élément qui nous a fait entrer en sympathie. En outre, on était dans les années de la décolonisation, les années 60, des pays africains. Il y avait Julius Nyerere, il y avait un tas de leaders africains qui étaient admirés du monde entier, qui prônaient la libération des peuples. Et petit à petit, ça s'est fait absolument partout dans le monde, la décolonisation. Il y avait le fait que ce PCF, par ailleurs, prônait la paix en Algérie. Et pour nous, ça ne voulait rien dire. C'est-à-dire que quand il y a une guerre, eh bien, il y a un camp qui doit gagner, un camp qui doit perdre. Et si la France ne voulait pas décoloniser, il fallait que les Algériens gagnent leur indépendance. Comme il y avait une guerre, il fallait qu'ils gagnent la guerre. Ou que quelque chose amène, y compris le camp du vainqueur, parce qu'on sait maintenant que l'armée française était victorieuse sur le terrain, mais que quelque chose amène le vainqueur à accéder aux demandes de celui qui était peut-être militairement vaincu, mais qui était politiquement vainqueur. Voilà. Et donc le PCF a commencé à nous sembler être un parti qui s'était installé, parce qu'évidemment on avait tous des rêves de révolution, on lisait Sartre, on lisait Nizan, on lisait Camus, on lisait Frantz Fanon, on lisait tout ce qui, dans le monde, publiait sur les problèmes d'indépendance. On lisait les textes des Black Panthers, évidemment on lisait Lénine.
Vous lisiez Marx ?
Ah ben ça, Marx, alors c'était le premier dans nos lectures, et en plus... À ce moment-là, l'université française était tenue par des marxologues, on va dire ça comme ça. Alors il y avait en sociologie, en philosophie, toutes sortes de penseurs dont le credo était marxiste, même s'il le déclinait de façon différente. Donc nos maîtres à penser s'appelaient Lukács, Georg Lukács. C'était sur toutes les thèses sur l'aliénation, etc. Il y avait ceux qui défendaient la pensée du jeune Marx. Il y avait Henri Lefebvre. Il y avait évidemment Althusser, qui était le roi des rois, puisqu'il rendait sa pureté à Marx par certains écrits, notamment son Pour Marx, qui a été notre Bible. Et il y avait toutes sortes d'autres philosophes d'obédience marxiste, même si par ailleurs ils ne professaient pas le marxisme. Je pense à quelqu'un comme Vladimir Yankelevitch, qui était quelqu'un d'incroyablement attachant, qui donnait des cours merveilleux, mais qui, quand même, était un philosophe de gauche, marxisant, disons. Et puis, il y avait d'autres sociologues. Et la pensée de gauche imprégnait enseignait une pensée qui était globalement de gauche et marxisante. Et nous, nous en étions totalement imprégnés, sans oublier la force du Parti communiste, qui avait des publications, des maisons d'édition, des journalistes, des penseurs regroupés autour de certaines revues. Et donc, on baignait là-dedans. Et quand est arrivé le conflit sino-soviétique en 1963, très naturellement, alors un certain nombre d'entre nous étaient déjà devenus trotskistes. Ça a été mon cas, je suis restée trotskiste un an ou deux, par anticommunisme, anticommunisme soviétique, antistalinisme, mais aussi en 63, lorsqu'il y a le conflit sino-soviétique éclate, nous sommes un certain nombre, les uns après les autres, à nous intéresser à la pensée de Mao Tse-tung, qui était le leader du Parti communiste chinois et le président de la Chine populaire, parce qu'enfin il y avait un pays qui voulait appliquer des théories marxistes sans être soupçonné de collusion avec les pouvoirs bourgeois ou sans être soupçonné de défaillance révolutionnaire. Voilà.
Alors, est-ce que vous vous rêviez à l'époque en garde rouge à la française ?
Ah, oui et non. Moi, je commençais à être un peu âgée pour être une garde rouge. J'étais arrivée bon an mal an au bout de mes études. Je les avais faites très sérieusement, mais un peu plus longuement, puisque je passais déjà un temps infini en réunion, en manifestation. C'était invraisemblable. En plus, il n'y avait pas que la guerre d'Algérie. Il y avait la guerre du Vietnam. Donc on avait commencé à créer des comités Vietnam de base. Et puis il y avait d'autres luttes de libération des peuples. Donc on se consacrait à toutes sortes de causes. C'était une effervescence politique que je pense la génération d'aujourd'hui, qui aurait notre âge de l'époque, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, ne peut pas imaginer, et c'est normal, puisque le contexte a totalement changé. Et donc, quelquefois, on dit « Ah, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, etc. » Mais c'est absolument normal parce que, d'abord, il y a eu entre-temps effondrement des idéologies, mais la société a totalement changé. Totalement changé. Donc, on se rêvait, certains en garde rouge, je pense. Moi, je me rêvais en véritable pionnière d'une révolution à la chinoise, d'un mouvement qui irait définitivement vers le peuple sans le trahir. Parce que notre première accusation, c'était par rapport au Parti communiste français d'avoir trahi les peuples qu'il avait été censé représenter. Mais même pour la Hongrie, par exemple, je n'ai jamais eu la vision d'une révolution hongroise contre-révolutionnaire. Je pensais que les Hongrois avaient eu raison de se soulever contre un appareil qui était un appareil répressif, qui ne donnait aucune liberté au peuple. Et nous nous imaginions qu'en Chine, c'était le contraire.
Alors vous êtes parti en Chine en 1967 par le Transsibérien. Donc c'était pour aller jusqu'au bout de vos idées ou pour étudier de plus près la révolution en marche ?
Alors c'était les deux. Parce qu'un révolutionnaire qui va étudier la révolution est déjà, allons-nous dire, à moitié convaincu. D'autant plus que, je répète, nous avions étudié tous les textes. Et nous avions lu des textes de Mao, notamment les textes... Moi, j'étais fasciné par ces textes militaires que je trouvais très intelligents, jusqu'à ce que je découvre un jour que Sun Tzu avait écrit des choses. Des centaines d'années auparavant, avait écrit des choses dont s'était inspiré Mao Tse-tung. Bon. Nous sommes partis déjà convaincus, d'une part, que la Russie soviétique était un pays bureaucratique, corrompu, et qui était passé à un ordre politique d'oppression pure et simple de ses ressortissants, pour aller vers un pays qui s'éveillait à une nouvelle révolution qui serait celle de la transformation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire, non seulement une transformation des moyens de production, collectivisation des terres, de l'industrie, etc., mais qui ferait en sorte que l'homme, tout d'un coup, se débarrasse d'une sorte de carcan qui faisait que toujours se reproduisait l'idée d'exploiter l'autre, confère l'Union soviétique, et donc aller faire surgir quelque chose de totalement nouveau.
À quoi ressemblait Pékin à ce moment-là ?
Ah, Pékin, c'était alors... Je suis retournée à Pékin il y a 4 ans, et 4 ou 5 ans. Et c'est absolument inimaginable. Premièrement, il n'y avait pas de voiture. Deuxièmement, Pékin était une ville de hutong, c'est-à-dire de petites maisons basses, organisées autour d'une cour centrale et noyées de verdure, sous les arbres, qui étaient quand même la meilleure protection contre les chaleurs épouvantables de l'été. C'était bourré de piétons et de cyclistes. Alors tout le monde était évidemment habillé en costume Mao, les femmes en pantalon, etc. Elles avaient perdu leur longue natte, qui était un signe d'appartenance de la femme à l'ordre ancien de la Chine impériale. Et c'était une ville, comme il n'y avait pas de voiture, qui paraissait très calme, même si par ailleurs il y avait des défilés avec des drapeaux rouges matin, midi et soir. Mais Pékin est tellement grand que ces défilés traversaient la place Tiananmen, les artères principales. Ailleurs, c'était une atmosphère assez calme.
Alors le slogan des gardes rouges en 1966 qui disait « Nous voulons l'odeur de la poudre, nous voulons être brutaux », ça ne vous a pas fait peur ça ?
Non, voyons. Mao Tse-tung avait écrit « La révolution n'est pas un dîner de gala ». Donc nous savions que toute révolution se faisait à la... Nous disions d'ailleurs « La révolution est au bout du fusil ». Et d'autre part, on trouvait que les gardes rouges étaient absolument fabuleux parce qu'ils avaient, au sein même de l'appareil politique chinois, décréter feu sur le quartier général. Un peu comme si un militant du PCF avait dit feu sur Maurice Thorez. Feu sur le bureau politique du PCC, du PCF, pardon. Et donc, on trouvait ça formidable. Des jeunes révolutionnaires qui envoyaient balader l'appareil du parti, pour nous, c'était une révolution extraordinaire au sens où elle envoyait par-dessus bord les vieux oripeaux des révolutions bureaucratiques, oppressives, etc. Donc on trouvait que ces types étaient formidables. On pensait qu'ils en rajoutaient un petit peu aussi dans la formulation brutale des choses. Nous découvrirons plus tard que c'était pas exactement ça, mais on voyait la Chine avec les yeux de Chimène.
Et alors justement, comment vous expliquez l'aveuglement dont votre génération a fait preuve à l'égard de cette révolution culturelle, et notamment les intellectuels ?
Alors, là, il y a deux ordres d'explications. La première, c'est que cet aveuglement vaut d'une révolution à l'autre. Elle a toujours existé. Et dans le livre « Voyage au bout de la révolution », je raconte comment les générations d'intellectuels précédents sont allées en Russie en expliquant... Je crois bien que Sartre a écrit que les vaches socialistes faisaient davantage de lait ou du meilleur lait, qu'on trouvait là-bas des gens qui produisaient dans la joie pour construire leur pays, qui connaissaient enfin la fraternité. Gide, même André Gide, qui ensuite reviendra sur ce qu'il avait écrit au retour de son premier voyage en Russie, André Gide dit, mais j'ai connu là quelque chose d'extraordinaire, de fraternel, de merveilleux. On a l'impression, quand on arrive en pays révolutionnaire, tout d'un coup de voir s'écrouler les catégories sociales qui sont si oppressantes chez nous. Vous n'allez pas serrer la main de telle personne qui est totalement hors de votre sphère de fréquentation. Vous, si vous êtes ouvrier, vous n'allez pas... peut-être que maintenant ça change un petit peu, mais enfin bon, de toute façon, les divisions en catégories sociales sont très très fortes. Et là, tout d'un coup, vous rencontrez tout le monde. Vous allez dans une usine, vous voyez tout le monde, depuis le responsable de l'usine jusqu'au type qui transporte les planches à la campagne, c'est pareil. Vous rencontrez les professeurs, vous rencontrez les étudiants. Et c'est un voyage fabuleux. Tout d'un coup, on a l'impression de pénétrer chez tout le monde, dans l'humain, chez des gens qui vous parlent spontanément. Évidemment, tout ça est une illusion absolument extraordinaire. Parce que Gide, d'abord, publiera un second texte sur son retour du RSS, dans lequel il démolira ce qu'il a écrit dans son premier texte. Mais ce qu'on découvre quand on voyage en socialisme et chez les révolutionnaires, c'est un art de la propagande qui est quelque chose d'absolument fabuleux. Et ça, je ne l'ai compris, j'ai même mis du temps à comprendre. Au début, je me suis dit, on a cru voir des choses merveilleuses. C'était vrai, mais il y a aussi un art de la propagande. Fabuleux, Vous avez l'impression que vous visitez par vous-même. Il y a des jours où on nous lâchait tout seul. Évidemment, d'abord, on ne pouvait pas aller très très loin, etc. Mais surtout, on vous fait découvrir ce qu'on veut que vous découvriez, c'est-à-dire des expériences exaltantes. Vous visitez la commune populaire qui répond à des critères présentables de paysans heureux, l'usine
cela dit, votre commune populaire, ça avait quand même pas l'air d'être un long fleuve tranquille.
Pas quand on est arrivé. Quand on est arrivé, on nous avait dit que dans cette commune populaire, on avait déjà critiqué la directrice de la commune populaire, qui était à nouveau directrice de la commune populaire. D'où l'idée que nous avons eue, encore une illusion de plus, que les révolutionnaires chinois de la grande révolution culturelle prolétarienne, parce qu'il y avait culturel en plus dans le mot révolution, vous imaginez, étaient capables de combattre les idées, mais de ne pas exécuter les gens, comme l'avait fait Staline et les dirigeants russes. Il y a une deuxième chose que je voulais dire, pour répondre à votre question, comment se fait-il que des intellectuels comme vous aient pu C'est que, d'abord, donc, j'ai raconté, on était nourris de rêveries révolutionnaires, mais pas seulement. Il y a que quand vous avez 20 ans, vous avez besoin de croire. Pour vous, le monde est vaste et vous avez besoin de croire à des choses bien plus exaltantes que la réalité de tous les jours, qui est que vous êtes prof, médecin, vous êtes, je sais pas quoi, vous allez être dentiste, vous allez devenir ingénieur. Et puis, ce monde-là vous paraît déjà étriqué. Vous avez 20 ans, vous avez lu des livres d'aventure, vous avez envie d'autre chose.
On a envie d'utopie.
On a besoin d'utopie, et l'homme a toujours eu besoin d'utopie, et en aura toujours besoin. Et pour répondre à ce désir d'utopie, il y aura toujours des gens pour vous fournir de la matière, ce qui a été le cas des dirigeants chinois, ce qui avait été le cas des dirigeants russes après, mais ça a été le cas à Cuba, ça a été... Aujourd'hui, il y en a même qui vont chez Chavez en pensant que c'est tellement formidable, et qui s'imaginent qu'on vit une révolution avec des gens qui sont en place à vie avec un appareil policier qui vous empêche de dire le contraire de ce que dit le grand leader, qu'il soit chinois, etc. Puis on a vu la catastrophe avec le Cambodge, n'est-ce pas ?
Enfin, cela dit, les Chinois, je pense qu'ils sont les meilleurs sur le sujet. Alors, à votre retour, vous pensiez que la révolution chinoise était exportable en France ?
Pas exactement. On était très bêtes, mais il y a des limites à la bêtise. Donc on avait encore une petite... un petit vernis d'intelligence. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait adapter, évidemment. Je me souviens d'un jour en Chine, des jeunes gardes rouges nous demandent « Mais alors, est-ce que vous allez prendre les armes dans le Massif central ?» Je ne sais pas où ils étaient allés chercher le Massif central. On avait dû leur expliquer que le Massif central était un endroit un peu désert. Je ne sais pas où on pouvait construire une sorte de base comme avaient construit les Chinois à Yan'an. Et on nous avait demandé aussi « Quand allez-vous prendre le fusil ?» On leur avait dit « Attendez, c'est pas si simple, etc. » Donc on pensait quand même qu'avant qu'en Europe, les gens ne prennent les armes pour se soulever, il faudrait quelques années. D'autant plus qu'on avait quand même étudié nos classiques, donc on était au courant de l'échec sanglant de la révolte des Spartakistes, par exemple en Allemagne en 1920. Du rôle extraordinairement négatif que ça avait eu quand même chez les Allemands d'après la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui était à ce moment-là, après la Première Guerre mondiale, qui était un pays déjà totalement ravagé, appauvri. Et l'échec des Spartakistes, c'est dans les années, c'est en 1920, et tout de suite derrière commence le mouvement nazi. Hein, c'est bon. Donc, nous ne pensions pas procéder comme ça. Nous pensions que il y avait une voix des anciens colonisés, une voix des pauvres, une voix des gens opprimés, des humiliés, comme on disait à l'époque, qui allait se rencontrer avec la voix des gens d'usine, parce que le travail en usine à l'époque était un travail dur. Il y avait encore des mines. Il y avait des coups de grisou, il y avait des morts. Les chaînes de montage étaient des chaînes très, très dures, avec des gens qui travaillaient dans les fosses, qui avaient des problèmes de dos, un travail répétitif, un travail très dur. Donc on pensait que tout ça allait se rencontrer et que nous étions là, non pas pour faire la révolution à leur place, parce qu'on se disait, ça, ce sont les communistes qui l'ont fait, ils n'ont rien fait du tout d'ailleurs. Ils parlent au nom du peuple, mais le peuple, il s'en fiche. On voyait quand même les choses sur place. Et on se disait que nous allions faire en sorte que on montre aux ouvriers qu'ils pouvaient petit à petit prendre le pouvoir et en instaurant de nous-mêmes des actions exemplaires.
Oui, vous aviez envie de jouer le rôle de déclencheur. Alors, à propos de déclencheur, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'attitude dès que vous avez pris conscience un jour que ce que vous aviez vu en Chine, c'était pas si bien que ça ?
Alors, la première chose, ça a été le crash de l'avion de Lin Biao en Mandchourie. Alors, Lin Biao était considéré comme le successeur de Mao, son fils spirituel, son plus proche compagnon, etc. Or, 71... l'avion se crache et sans s'être concerté avec mon mari Pierre Blanchet, on s'est regardé et je lui ai dit mais Ça sent la GPU, le GPU, le KGB, ça sent les Russes. Pas au sens où les Russes auraient été pour quelque chose dans le crash de l'avion, mais c'était un scénario à la soviétique, on élimine un dirigeant qui vous dérange, et non pas par des méthodes douces, ou des méthodes de persuasion, ou des méthodes politiques, ou des débats, mais bel et bien par l'assassinat. Et ça faisait un moment déjà que, sur la question de la Chine, disons, nous sommes revenus à la fin, donc 67, à l'automne 67, en 68, nous on participe avec une joie formidable à 68, parce qu'on considère, enfin moi je me souviens de, pour moi 68 est un mouvement de libération extraordinaire, et notamment en tant que femme, parce que vu l'âge que j'ai connu la condition des femmes d'avant 68, ma mère a eu le droit de divorcer à peu près librement, j'ai mis la date dans le bouquin, ça devait être justement 68. En 65, elle a eu le droit d'avoir un carnet de chèques sans l'autorisation de son mari, alors qu'elle avait toujours travaillé. Et je trouvais que... Et alors, on avait encore ma génération des pères qui étaient d'une dureté, d'une intolérance qui empêchait... Par exemple, mon père avait honte du fait que sa femme travaille. Mais en même temps, comme il était extraordinairement, on va dire, poliment qu'il était économe, ça l'arrangeait quand même qu'elle rapporte un salaire, d'autant plus qu'il trouvait que les filles, ça coûtait cher et qu'il ne s'est jamais remis de ne pas avoir eu de garçon et qu'il nous l'a fait payer très, 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 très durement. Donc, quand 68 est arrivé, pour moi, c'était tout ça qui... on avait une télé qui était complètement... Tous les soirs, il y avait quelqu'un du ministère de l'Intérieur, quand même, qui était au siège de l'ORTF, etc. Donc, et c'était en complète contradiction avec ce qui se passait à l'époque, partout dans le monde. Les années 60, c'est l'arrivée de... Mais déjà, les années 50, c'est le rock, etc. Les années 60, il y a les Beatles. Arrive Mick Jagger, les Rolling Stones. Il y a la nouvelle vague, le roman aussi, bon, etc. Donc, ça ne pouvait pas... C'était explosif. Et les femmes réclamaient le droit à l'interruption de grossesse, etc. D'ailleurs, ça a été le départ de la vraie libération des femmes. Ça a été ça, le vrai. Et ça, c'était 68. Le fait de pouvoir se parler, en plus, dans les rues, alors les gens sortaient des usines, les gens des bureaux, c'était formidable. Il y a eu un espèce de moment de grâce, comme ça. Et puis après, chacun est rentré chez lui. Et nous, évidemment, comme nous étions gauchistes, on a continué sur notre lancée. Puisqu'il y avait eu 10 millions de grévistes en 68, tout ce mouvement et ce chambardement, eh bien, c'est qu'on pouvait, estimer que les peuples étaient prêts à se libérer.
Et que quelque chose était possible.
Voilà.
Très bien. Alors, que sont devenus vos amis maoïstes ?
Ah, alors là, c'est compliqué. On a eu des trajectoires extrêmement diverses. D'abord, nous n'arrivions pas tous du même endroit, de la même origine sociale, ni au même âge. Donc il y en a qui ont abandonné leurs études au bac pour s'établir en usine. Certains ont pu reprendre des études, d'autres non. Donc on a quand même gâché certaines possibilités pour des jeunes gens qui étaient de s'accomplir. Deuxièmement, il y en a beaucoup qui s'en sont très mal remis, parce que quand même c'était une expérience violente, le maoïsme. Je raconte ce qu'a été notre vie de militants. C'était vraiment dur. Et certains ne s'en sont pas remis, se sont suicidés. D'autres, comme nous qui avions décidé que l'aventure avait assez duré en 73, parce que après l'IP, après l'attentat de Munich, etc., on s'était mis à revoir un certain nombre de nos certitudes. Mais la sortie de tout ça a été aussi très douloureuse, parce qu'on avait passé quand même 5 ans, 6 ans, 7 ans à complètement mettre en l'air ce qu'on aurait pu être professionnellement. Ou... Bon, alors certains ont pu se rétablir. En plus, certains avaient aussi un background social et un réseau qui leur a permis de remettre le pied à l'étrier. D'autres, non. Et ça a donné des destins extraordinairement différents. Et puis aujourd'hui aussi, nous ne pensons pas tous la même chose.